À voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Michel Simon rencontre Isabelle Huppert. Ce soir, Isabelle Huppert interprète.
Cette semaine, À voix nue sera consacrée à Isabelle Huppert. Ce sera un voyage au long cours. D'abord, merci Isabelle Huppert d'être venue pour que nous parlions ensemble de la plus grande actrice de sa génération qui a été tellement distinguée par des prix. Deux prix à Cannes pour Violette Nozière et La Pianiste, deux coupes Volpi à Venise pour Une affaire de femme et La cérémonie, un Lion d'or spécial également à Venise pour Gabrielle, un Golden Globe pour Elle, deux Césars pour La cérémonie et Elle, également des prix du cinéma européen pour La pianiste et Huit femmes. Voilà, vous êtes à la fois honoré par vos pairs et par des jurys, mais aussi par le public qui a fait de grands succès à certains de vos films parce que vous alternez des films très populaires et des films plus difficiles. Récemment encore, vous étiez à l'affiche le même mois avec trois films qui reflètent trois aspects de votre talent et de vos curiosités. Madame Hyde de Serge Boson, un jeune cinéaste français, car vous donnez souvent la chance à de jeunes cinéastes. Eva de Benoît Jacquot, qui lui est un de vos cinéastes fidèles. Vous avez tourné plusieurs films avec lui, qui est un réalisateur important. Et également un film de Hong Sang-soo, cinéaste coréen, La caméra de Claire. Et ça, c'est l'aspect international de votre travail, puisque vous êtes une actrice qui a énormément joué avec des réalisateurs étrangers. Alors, on peut dire aussi que Hong Sang-soo, le titre « La caméra de Claire » ne correspond pas d'ailleurs au film, puisque « Claire's caméra », le titre original, se réfère évidemment à un appareil photo. Et l'appareil photo de Claire, ce personnage que vous jouez dans le film, eh bien, va nous amener aussi à parler de la photographie dans cette première partie de notre entretien, que je voudrais aussi consacrer à votre travail d'interprète. Interprète, cela veut dire qu'il y a d'abord plusieurs possibilités de jouer un rôle qu'on vous confie. Et il y a aussi votre présence physique sur les écrans et votre goût justement de la photographie où ce visage que l'on photographie de vous, et il y a de multiples photographies de vous dans des expositions, ce visage est aussi une interprétation de votre présence physique. Par ailleurs, je crois savoir que la photographie aussi fait partie de votre vie courante. Vous aimez photographier.
Pas spécialement,
mais
non.
Mais vous
non.
Observez alors, vous avez un œil de photographe, vous observez la rue.
J'ai un œil de spectatrice, je ne suis absolument pas photographe. Je prends des photos comme chacun maintenant, avec une certaine profusion, parce que j'ai un iPhone, comme tout le monde, et que je prends des photos comme ça. Mais il y a peut-être, oui, une petite mauvaise interprétation, pour parler d'interprétation de cela. Il y a une exposition de mes photos comme modèle qui m'a été consacrée il y a déjà presque une dizaine d'années maintenant et qui continue d'ailleurs à tourner un petit peu partout dans le monde et qui a pu laisser penser que je m'intéressais à la photo en tant que photographe. Et puis j'ai eu l'occasion effectivement de jouer à deux reprises un personnage de photographe dans My Little Princess, le film de Eva Ionescu, et plus récemment le film de Hong Sang-soo. Mais je suis amateur de photos, mais je m'y connais pas plus que ça et je ne la pratique absolument pas moi-même. Pas
alors cette exposition au Cordelier, mais qui a fait le tour du monde, de la femme au portrait,
oui,
dans lequel vous étiez photographié par vraiment le gratin de la photographie mondiale, Cartier-Bresson, Doisneau, tous les grands photographes vous ont photographié. Comment ça s'est passé? Vous les avez sollicités ou ils ont Helmut Newton?
Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que en fait, quand on a eu l'idée de faire cette exposition, c'était à l'occasion d'une rétrospective de mes films qui était initiée et qui m'était consacrée et initiée par Serge Toubiana, à l'époque directeur de la Cinémathèque. Et on a Serge Toubiana a souhaité qu'il y ait un événement parallèle à la projection des films qui soit un peu extra cinématographique tout en restant quand même dans le champ de l'image. Donc on a eu à ce moment-là l'idée de faire cette exposition qui a consisté dans un premier temps et même dans un deuxième à tout simplement réunir la plupart des photos que j'avais faites. Et ces grands photographes comme Cartier-Bresson, Édouard Bouba, Jacques-Henri Lartigue, j'avais eu l'occasion de les rencontrer à l'occasion d'un numéro spécial que j'avais fait pour le Figaro Madame. Et j'avais souhaité faire tout un sujet à l'époque sur la photographie. Et c'est à ce moment-là que je les avais rencontrés. Et un peu plus tard, à nouveau, quand j'ai été aussi rédactrice en chef d'un un numéro des Cahiers du cinéma, j'ai continué cette recherche. Et là, j'ai rencontré Cartier-Bresson, Willy Ronis, tous ceux que je n'avais pas pu rencontrer dans un premier temps. Alors, c'est vrai que ça a constitué toute une collection de photos et de rencontres avec des photographes qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer dans une vie d'actrice. Vous me citiez Helmut Newton, et Helmut Newton, c'est un très grand photographe de mode. Donc là, c'était tout simplement une rencontre, j'imagine, initiée par un journal comme Paolo Roversi ou comme Peter Lindbergh. Mais les photographes dits humanistes qui sortent un peu de ce champ-là, une actrice n'a pas forcément l'occasion de les rencontrer. Et c'était des rencontres extraordinaire, qui était sous l'angle plutôt de la déambulation ou de la conversation. Et j'ai passé beaucoup de temps avec eux à me promener, par exemple, pour Robert Doisneau, dans des quartiers dans lesquels il avait l'habitude d'aller, dans des cafés, dans le 18e arrondissement de Paris ou au nord de Paris. Jacques-Henri Lartigue, il a souhaité m'emmener à l'île de Léron, par exemple, où il avait l'habitude de passer beaucoup de temps. Voilà, donc c'était des rencontres assez extraordinaires où tout d'un coup, je faisais tout simplement partie de leur univers.
Vous avez été aussi la marraine, on peut dire, d'une exposition Map of Thought. Et puis, il y a aussi ce projet assez étonnant de Ronnie Horn, le photographe, qui a fait 100 versions de vous pour son Portrait of an Image. Portrait d'une image. Donc, cette multiplication, justement, de votre visage, qui est extraordinairement mobile et varié, c'est il n'y a aucune monotonie parce que vous êtes à chaque fois différente. Ça évoque un peu le travail du cinéma et justement de jouer tant de rôles différents. Et on dit que l'acteur, c'est peut-être un cliché, c'est une recherche d'identité. Est-ce que vous vivez comme ça?
Oui, quand même. On pense souvent que, ou j'entends souvent dire des acteurs ou des spectateurs prêter ce genre de pensée aux acteurs, penser qu'on traverse d'autres vies, qu'on est d'autres personnages. Moi, personnellement, je me suis fié à moi-même et j'ai pas du tout l'impression de devenir autre. J'ai l'impression, au contraire, au lieu que ce soit une exploration horizontale, j'ai un peu l'impression que c'est une exploration verticale. Enfin, je sais pas, j'ai une image un petit peu comme ça, géométrique, qui me vient à l'esprit. Je sais pas si elle est nécessairement claire pour l'auditeur. Mais j'ai le sentiment que c'est, voilà, une affaire entre moi et moi, déjà, pour commencer, et pas du tout une projection dans des vies imaginaires. Après, évidemment, c'est une collusion avec un univers qui n'est pas le mien, qui est l'univers du metteur en scène, et ça fabrique à chaque fois cette collusion avec des écritures différentes, des univers visuels différents, des choix de décors, tout ce qui fabrique la texture même du cinéma, eh bien, ça fabrique à chaque fois des interprétations différentes, pour en revenir à votre question de départ, bien sûr, et qui donne tout à fait légitimement la sensation au spectateur que on est autre, mais on est à la fois autre et quand même on reste soi-même.
Mais justement, dans ce numéro des Cahiers du cinéma, c'est d'ailleurs amusant de voir une comédienne qui devient journaliste, une très bonne journaliste. Vous avez multiplié les entretiens avec Jean Baudrillard, avec Pedro Almodovar, avec Antoinette Fourque, etc. Bon, c'était très passionnant, mais il y a en particulier un entretien avec Nathalie Sarraute, où il y a effectivement une connivence entre vous et elle comme romancière, puisque elle ne croit pas non plus aux personnages, elle croit plus aux états qu'aux personnages.
Oui, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer à ce moment-là, de beaucoup parler avec elle. Il y avait des gens aussi dont j'étais proche, qui étaient aussi proches d'elle, comme je pense à Jacques Doyon, notamment, qui était très proche de Nathalie Sarraute, ou plus tard Jacques Lassalle aussi. Et c'est vrai que cette différence entre personnage et personne, c'est quelque chose dont on avait déjà beaucoup parlé avec Jacques Doyon. Je crois que c'est le premier que j'ai entendu dire, voilà, qui ne croyait pas à l'idée du personnage, mais qui ne croyait qu'à la notion de personne. Et c'est vrai que c'est quelque chose sans du tout comparer ce que je fais ou ce qu'un metteur en scène fait avec l'univers de Nathalie Sarraute, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des figures qui émergent avec sensation du vivant, qui circulent, mais il n'y a pas à proprement parler des descriptions de personnages avec une psychologie, ni non plus avec des descriptions physiques, par exemple, qui tout de suite contraignent. Si je lis dans un scénario que le personnage est brun, par exemple, ou, ben alors je me dis tout de suite, bon, alors c'est pas forcément moi. Donc ça, voilà, il y a une manière de laisser le champ complètement ouvert, justement, pour tout simplement traduire des états, et ça donne une grande liberté, et surtout ça laisse place à l'imagination. Alors que si et c'est aussi quelque chose que j'avais retrouvé aussi dans Madame Bovary, par exemple, où Madame Bovary au fond n'est jamais décrite d'une manière précise, et ça permet, voilà, de s'imaginer dans beaucoup plus de personnages, puisque c'est quand même le mot que l'on a. Parfois, on n'en a pas d'autres, justement, pour expliquer qui on joue.
Ça reste. Alors, justement, dans le choix des projets, des scénarios, même si ce n'est pas totalement le personnage qui vous attire, en tout cas, c'est les états de quelqu'un, est-ce que, tout de même, ça peut vous pousser à accepter un projet parce que ce personnage, je prends par exemple le film que vous avez fait avec Mauro Bolognini sur La Dame aux Camélias. Est-ce que, ou évidemment, mais là, c'est, on en parlera plus tard de Madame Bovary avec Chabrol, mais évidemment, ça, c'est le désir aussi de retourner une nouvelle fois avec Chabrol. Mais est-ce que il y a quelque chose dans un personnage qui peut vous attirer suffisamment pour que vous décidiez de faire le film?
Alors, dans le cas de La Dame aux Camélias, oui, là, effectivement, on est en plein dans la notion du personnage, avec une description. Mais juste, le film, en même temps, justement, se voulait la vraie vie de la Dame aux Camélias. Ça ne se voulait pas du tout une adaptation du roman de Dumas. Donc, avec cette proposition-là, il y avait justement toute possibilité d'imposer quelque chose de totalement inédit, parce que ce n'était pas du tout La Dame aux Camélias, c'était la vie de Marguerite Duplessis qui, elle-même, avait inspiré la fiction de Alexandre Dumas. Et le projet initial, je crois, parce que c'était un scénario de Orange et Bost, je crois, c'était justement de donner accès à ce personnage réel qui avait inspiré Dumas pour la création d'un personnage fictionnel et qui était différent du personnage réel. Et puis après, c'était aussi le plaisir de rencontrer Mauro Bolognini, qui était un metteur en scène absolument formidable. Et ça reste toujours ça, la motivation première, c'est quand même de rencontrer l'univers d'un metteur en scène, au-delà d'un personnage, au-delà d'une histoire. Le personnage et l'histoire ont, finalement, ont peu d'importance face à l'intérêt que représente la rencontre, avant tout avec un metteur en scène.
Dans la préparation de votre rôle, est-ce que vous revenez à l'œuvre originale? Est-ce que, par exemple, vous êtes allé voir l'œuvre d'Alexandre Dumas fils? Est-ce que Jelinek, vous avez lu le livre de Jelinek pour la pianiste, ou bien le livre de Flaubert? Comment vous construisez, disons, votre future interprétation?
Alors, il se trouve, non, pas du tout par des recherches aussi ponctuelles et aussi, non, à partir du moment où on décide de s'aventurer dans un film. Alors, je crois que au contraire, l'imaginaire est absolument tout puissant. Et vous citiez l'exemple de la pianiste. Je n'ai pas lu le roman au moment où j'ai fait le film. Je crois même que je ne l'ai jamais lu après, d'ailleurs, bizarrement. Donc, voilà, il y a juste eu un scénario, une très forte envie de rencontrer Michael Haneke, et ça m'a suffi pour que, voilà, que ma pensée se mette en marche, sans forcément s'arrêter sur des détails concrets qui me seraient offerts par la lecture d'un livre. Pareil, je crois que vous citiez La Dame aux Camélias. Il n'y a pas ce genre du tout de recherche dans l'élaboration d'un personnage. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. Moi, je pense que c'est complètement inutile. C'est simplement, encore une fois, la collusion de son propre imaginaire et de sa... de quelque chose, au fond, de son inconscient aussi, d'assez mystérieux, avec une écriture, avec ce qu'on ressent de la... Alors, dans un premier temps, de l'écriture d'un scénario, mais dans un deuxième temps, qui arrive très rapidement, tout simplement, ce qu'on capte aussi du moment où on va le faire. C'est-à-dire, c'est le présent du tournage qui est la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. C'est la puissance de la mise en scène. Et la mise en scène, c'est le mouvement, c'est ce qui donne vraiment corps à ce qu'on... Alors, on peut y penser beaucoup, beaucoup avant. Oui, alors, dans le cas d'un personnage très... Comment dirais-je... Moi, j'ai lu récemment beaucoup d'interviews de Daniel Day-Lewis à propos de Phantom Thread, qui parle beaucoup de cette pratique très concrète et très physique qu'il a besoin de faire vis-à-vis des rôles. C'est intéressant. C'est pas du tout une démarche qui est la mienne, et en même temps ça m'intéresse vraiment d'entendre quelqu'un comme lui le décrire, et ce que je peux très bien comprendre aussi, parce que peut-être que dans le cas de ce film, oui, il y a l'importance du geste, il y a quelque chose, voilà, c'est aussi quelqu'un qui fabrique le vêtement, donc c'est une approche tout à fait possible qui m'a été rarement donnée d'explorer au fond dans les rôles que j'ai fait jusqu'à présent.
Vous seriez un peu, au fond, à l'opposé de la méthode Stanislavski, c'est-à-dire la méthode de Kazan, de Strasberg, c'est-à-dire d'aller à l'usine pendant un mois et demi pour devenir un personnage de prolétaire, ou bien de, je ne sais pas moi, de faire de la marche à pied. C'est ce que disait Laurence Olivier, qui lui représente l'autre tendance de l'acteur, qui serait à mon avis plus proche de la vôtre, à Dustin Hoffman, qui faisait tous les matins une heure de marche à pied en courant pour se préparer à son rôle. Il disait, mais pourquoi tu ne te contentes pas de jouer.
Alors, Jean-Luc Godard a probablement eu à cœur de me faire découvrir, à mon insu, la méthode Stanislavski, comme vous dites, parce que vous évoquez le travail en usine. Quand on tournait Passion, Anna Chigoula et moi, il a voulu que Anna travaille dans un bar tous les soirs, parce que je crois que dans le film, elle travaillait dans un bar, et il a voulu, moi, que j'aille dans une usine d'horlogerie travailler tous les matins. Pour comprendre ce que c'était que voilà ce travail manuel, répétitif, contraignant. Il a souhaité tout d'un coup que nous actrices on soit confrontées au monde du travail, et enfin au monde d'un travail qui n'était pas le nôtre, parce que ce que l'on fait c'est aussi un travail, mais il a voulu qu'on comprenne ce que c'était. Je suis pas sûre que ça a eu une influence sur la manière dont on avait de jouer les personnages, tout comme à l'école Chimino, quand on tournait La Porte du Paradis, a voulu que moi et toutes les jeunes femmes qui m'entouraient, dans cette maison close que je dirigeais, nous a fait séjourner aussi dans une petite maison close au fin fond du Wyoming pour comprendre ce que c'était. Et alors, on a compris la violence du travail tel qu'il se pratiquait dans cette maison close. Enfin, ça n'était pas des travaux pratiques, hein. C'était, mais rien que en observant à quoi étaient soumises toutes ces très 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 jeunes femmes. Après, je suis pas sûre là non plus que ça a influencé notre manière de jouer.
Donc ça ne joue pas un rôle important pour vous.
Non, je crois pas. Pas du tout.
Mais en même temps, ce que je trouve dans votre travail, c'est un mélange d'émotions et de distance à la fois. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais dans une sorte d'exubérance sentimentale ou émotionnelle, ni non plus dans une sorte de détachement avec Chabrol, mais avec tous les metteurs en scène. Il y a un côté réflexif et un côté en même temps investissement.
Oui, c'est ce que je lis souvent à mon propos, sans que je le comprenne complètement. Je le comprends, bien sûr, je comprends ce que je lis, et en même temps, j'ai l'impression que si c'était ça, alors ça veut dire aussi que il y a quelque chose de réfléchi en moi qui a décidé de placer l'émotion à une certaine distance, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'ai l'impression que je joue tout simplement en étant au plus proche de ce que je pense être la vérité, tout simplement. Et souvent il y a une exagération dans l'expression des émotions, dans l'expression des sentiments, sous prétexte qu'on est au cinéma ou dans la fiction, qui me paraît nous éloigner de la vérité. Et c'est assez curieux comment, alors, ce que moi je trouve, même comme spectatrice, ce qui me semble être se rapprocher le plus d'une réalité bon, c'est pas pourtant que le cinéma est forcément un art réaliste, mais enfin, je parle de la réalité ou la vérité d'un sentiment. C'est assez curieux de penser que parfois c'est compris comme étant avec distance, et pour autant, je sais pas, je me dis si les gens réfléchissent vraiment, est-ce qu'ils pensent vraiment que dans la vie, les choses s'expriment avec autant de force la plupart du temps ou avec autant d'exagération, en tous les cas pas dans la mienne. Voilà, tout simplement.
Mais être actrice ou acteur, c'est tout de même gouverné par un désir de séduction. Et ce désir de séduction pourrait contrevenir à l'interprétation, parce que de vouloir séduire avec un personnage qui n'est pas automatiquement séduisant.
Alors ça, c'est encore autre chose. C'est, on sort du domaine de l'expression des émotions et de cette fameuse distance, parfois, qui m'est imputée. Ça dépend de ce qu'on entend par séduire. C'est pas forcément les personnages les plus avenants ou les plus immédiatement et compréhensibles et sympathiques qui sont, à mes yeux en tous les cas, forcément les plus séduisants. Au contraire, moi, comme spectatrice, je suis plus séduite par un personnage que je ne comprends pas ou qui me pose des questions ou qui n'est pas immédiatement sympathique. Que je trouve que ça procure plus de l'empathie, justement, comme ça, une certaine quelque chose d'un petit peu plus indéfinissable et un peu plus impalpable.
Ce qui veut dire que pour vous, vous ne pouvez pas imaginer d'interpréter un personnage qui vous serait totalement antipathique. C'est-à-dire que même ce personnage qu'on pourrait croire antipathique, pour vous, peut avoir des traits qui vous intéressent et que vous avez envie de défendre, un avocat.
Ça ne me préoccupe absolument pas de savoir si un personnage est antipathique ou sympathique. C'est pas du tout l'angle par lequel j'aborde mon travail. Et c'est pour ça, sans doute, que je m'entends bien avec des metteurs en scène comme Benoît Jacquot, comme Michael Haneke, comme Claude Chabrol, parce que c'est pas du tout non plus comme ça qu'ils choisissent de montrer les gens. Ils choisissent de les montrer à la juste place qu'ils occupent dans une histoire donnée, dans un contexte donné aussi, et que souvent les gens confondent l'antipathie ou la sympathie d'un personnage avec l'antipathie ou la sympathie d'une situation dans laquelle ils sont plongés. Donc voilà, moi ce qui me préoccupe, instinctivement, je vais plus vers cette forme de représentation qui me paraît encore une fois tout simplement plus proche de ce que j'essaie de traduire au cinéma, c'est-à-dire une idée quand même de la vérité. Après, c'est chaque film aussi a son, comment dire, si je parle par exemple d'un film de Serge Bozon qui va sortir bientôt à la fin du mois, Madame Haïd, alors là on est dans un univers un peu burlesque. Chaque film aussi impose sa manière d'être qui fait que à des moments on dépasse aussi cet écueil ou cette opposition entre la sympathie et l'antipathie. On est aussi dans parfois autre chose, une autre représentation, une autre esthétique.
Si je prends par exemple deux de vos rôles majeurs au début de votre carrière, enfin vous y aviez commencé quelques années plus tôt, mais deux rôles importants à un an de distance, c'est-à-dire d'une part La Dentelière de Claude Goretta, une champouineuse qui a du vague à l'âme, qui est dans une sorte de tristesse fondamentale, et puis ensuite Violette Nozière, qui est l'héroïne d'un fait divers très célèbre de 1933 où elle avait assassiné son père, enfin elle voulait assassiner ses parents, mais elle a seulement réussi à assassiner son père, le film de Claude Chabrol. Ce sont des films qui sont à la fois proches et en même temps totalement opposés, parce que vous avez dans l'une quelqu'un de très passif et dans l'autre quelqu'un de très révolté. Mais ce sont deux rôles qui, me semble, ont marqué considérablement votre image dès le début.
Oui, c'est deux rôles d'abord que j'ai tournés pratiquement l'un après l'autre. Alors c'est vrai que c'était un petit peu la face blanche et la face noire d'une même personne. Il y avait La Dentelière qui était un personnage particulièrement vulnérable, fragile. Et c'était ça la grandeur et la beauté du film et la violence aussi de l'histoire, puisque c'est une histoire qui opposait cette jeune fille assez démunie intellectuellement, qui n'arrivait pas à s'exprimer de la manière, en tous les cas, dont le jeune homme qu'elle rencontre, qui était interprété par Yves Benetton, aurait souhaité tout d'un coup qu'elle s'exprime, et qui et qui se trouve d'une manière particulièrement cruelle et dévastatrice, rejetée par lui. Et le film était violent car c'est une blessure d'amour qui va jusqu'à la folie, puisqu'elle finit par être internée. Donc c'était une vision et de la folie et de l'amour qui était particulièrement qui était très très proche l'une de l'autre et qui nous montrait un personnage dans une profonde détresse. Et puis l'année d'après, oui, c'était Violette Nozière, sur un ton au fond sur un mode pas si éloigné que ça de La Dentelière, parce que c'était la manière dont j'étais aussi à cette époque-là, donc sans véritablement de grands éclats, mais avec une chose assez minimaliste, mais une noirceur, une violence là aussi, mais qui s'exprimait j'avais l'habitude de dire c'était un peu La Dentelière qui est sortie de l'hôpital pour tuer son père et sa mère, voilà. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se fomentait à l'intérieur d'elle, et cette révolte contre une promiscuité, contre une médiocrité, contre ses parents qu'elle rendait tout d'un coup responsable de renier tous ses rêves de grandeur. Oui, c'était un personnage tout à fait extraordinaire. Et puis qui était un personnage réel, qui a vraiment existé, qui à l'époque avait inspiré les surréalistes, tout d'un coup qui a représenté comme ça une sorte de symbole, de volonté de liberté, et qui a fini d'ailleurs par être gracié à la fin de sa vie.
Pour terminer cette première partie de La Voix Nue, il y a une grande curiosité dans votre travail et visiblement un souci de renouvellement. Par exemple, c'est seulement avec La Dame au Camélia, dont on a déjà parlé, avec Les Ailes de la Colombe de Benoît Jacquot, d'après Henry James, que vous abordez le film en costume, quelque chose de romanesque, etc. C'était ça dans votre idée aussi de vous sortir peut-être de rôle contemporain, d'expérimenter un peu le costume.
Je ne crois pas que dans une vie d'actrice, on ait des idées aussi arrêtées. Il y a quand même un principe de réalité qui fait que oui, on peut avoir... On a envie d'embrasser tous les possibles quand on est actrice. Costume, pas costume, réalité, monde contemporain, film d'époque, c'est ça être actrice, c'est pas avoir ni des rêves de grandeur, ni faire preuve d'une voracité particulière, c'est tout simplement ça être actrice, c'est pas si sorcier que ça. Après, il y a un principe de réalité qui s'impose à toutes les actrices, à tous les acteurs du monde. Voilà, il y a certaines choses qui se présentent à soi, il y a certaines personnes qui vous aiment ou qui vous aiment pas, voilà, et ça c'est aussi ce qui en fait à la fois la beauté, parfois la violence. C'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Il y a ceux qui ont envie de me filmer, il y a ceux qui n'auront jamais envie de me filmer, c'est comme ça. Et c'est voilà, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre, et on en vit très bien.
Merci beaucoup Isabelle Huppert, donc nous revoyons demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Michel Simon avec Isabelle Huppert. À Voix Nue, réalisation Christine Robert, prise de son Tahar Bouklifa, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.